non seulement les volumes des historiens, mais les volumes que les historiens ont consacrés, non pas à des études historiques proprement dites, mais à la méthodologie de l'histoire, on est frappé de voir que, en dehors des marxistes, pour la plupart de ces historiens, l'histoire n'a ni sens ni but. Les marxistes sont peut-être les seuls historiens actuellement à donner à l'histoire un sens et un but, le but étant l'avènement d'une société sans classe et le sens de l'histoire étant bien entendu de tendre vers ce but avec des luttes de classe successives qui se poursuivront jusqu'à la dernière lutte de classe, celle qui débouchera sur la société sans classe. Donc, pour les historiens marxistes, et lorsqu'ils exposent leur méthodologie, il en est ainsi, pour les historiens marxistes, ils sentent, je dis ils sentent, parce que nous aurons l'occasion d'y revenir, que pour eux, l'histoire est un sens et un but. Mais pour la plupart des historiens, il semble bien qu'il n'y ait à l'histoire ni sens, ni but. On pourrait alors se poser la question, mais alors qu'est-ce qu'être historien ? Comment peut-on être historien si l'histoire n'a pas de sens et pas de but ? Et, en fait, pour la plupart des historiens, vous l'avez peut-être déjà constaté, en tout cas vous le constaterez dès que vous en étudierez quelques-uns, l'histoire ne devient plus qu'une recherche de description plus ou moins chaotique d'ailleurs, puisque l'histoire n'a pas de sens ni de but, d'événements passés. Au fond, qu'est-ce qu'un historien ? C'est quelqu'un qui pique quelque chose dans le passé et qui va s'efforcer de faire des recherches autour de ce point, de ce moment de l'histoire qu'il a ainsi piqué. Il va accumuler les données sur ce point, sur ce moment de l'histoire, et il va essayer de donner une description qu'il juge d'ailleurs objective. Il va essayer de donner une description de ce moment du passé ou de cet événement du passé. Et en somme, l'histoire revient à redécouvrir dans la mémoire quelque chose qui s'y trouvait enfoui. On pouvait d'ailleurs rapprocher l'histoire et la recherche historique de la psychanalyse, de même que le psychanalyste va rechercher, enfoui, un événement du passé, en particulier un événement de l'enfance, ou si l'on est disciple de Jung, un archétype, eh bien l'historien, lui, va chercher à faire ressortir dans la mémoire de l'humanité tel moment ou tel événement du passé. Et quelquefois, à la lecture de certains ouvrages historiques, on a l'impression que la mémoire se trouve chargée d'un fardeau de plus en plus vaste, mais finalement, on peut se demander à quoi cela sert-il si l'histoire n'a ni sens ni but. À quoi sert-il de se charger la mémoire d'un tel fardeau si, somme toute, se charger d'un tel fardeau est inutile. Après avoir, au XIXe siècle, imaginé que l'histoire pouvait être une science objective comme la science physique ou naturelle, la plupart des historiens au XXe siècle, en accord avec l'existentialisme ambiant, ont comme sapé les bases mêmes de leur science et de leur recherche. Puisque finalement, comme je viens de l'indiquer, l'histoire n'est plus qu'une accumulation de faits, j'allais dire sans queue ni tête. On pourrait dire que c'est une historiographie qui remplace l'histoire. Mais ceci n'est finalement qu'un aspect des choses. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir comment certains historiens ont fini par donner des descriptions qui peuvent être intégrées et qui peuvent être et qui doivent même être intégrées dans, je dirais, la foi chrétienne. Et comment nous pouvons recevoir certaines œuvres, non pas dans tous leurs détails, parce qu'aucun historien d'ailleurs ne prétend que tous les détails qu'il donne sont forcément exacts. Des recherches ultérieures peuvent modifier telle ou telle donnée. J'ai dit tout à l'heure que l'histoire était une sorte de mémoire de l'humanité. Bon, mais on peut se tromper dans sa mémoire. Lequel d'entre nous ne croit pas en toute bonne foi se souvenir de telle chose? Et puis, il peut s'apercevoir très vite qu'il s'est trompé. Les historiens ne prétendent pas à l'infaillibilité. Et il peut y avoir donc des corrections. Mais il n'empêche que un certain nombre de travaux d'historiens amènent à une mémoire valable du passé. Il y a trois auteurs qu'il est intéressant de lire à ce sujet. Bien sûr, ils sont marqués par les présupposés philosophiques ou religieux de leur époque. Par exemple, les trois hommes dont je vais vous parler ont été marqués par la vision de la nature qui était celle de leur siècle. Il s'agit en effet du XVIIIe siècle, c'est le temps de l'Aufklärung, c'est le temps des Lumières, et ces trois historiens dont je vais vous parler ont tous les trois été très marqués par cette sorte de divinisation de la nature et par cette perception qu'ils croyaient avoir d'un droit naturel plus ou moins mécanique. Voilà les trois historiens auxquels je me réfère. Il y a un Anglais, un Français et un Italien. L'Anglais, c'est Edward Gibbon. Edward Gibbon est né en 1737 et il est mort en 1794. Et il est célèbre en tant qu'auteur d'une histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Je répète le titre, Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, 1776-1788. Je vous signale, au cas où ça vous intéresserait, que l'œuvre de Gibbon, la traduction française de l'œuvre de Gibbon, vient de reparaître. Je ne me souviens plus le titre de cette collection. C'est une collection où on imprime en un volume, c'est pas très cher d'ailleurs, en un seul volume, des œuvres maîtresses, des œuvres fondamentales. Peut-être que vous avez vu cette collection, le titre m'échappe. Comment ? Oui, ça doit être ça. Alors vous vérifierez, je crois bien que c'est ça. Et alors on vient de republier cette œuvre de Gibbon. C'est un livre, à mon sens, très intéressant. Il date, bien entendu, il date. Mais je crois qu'à certains égards, il n'a jamais été de plus surpassé. Sur ce point précis, histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Gibbon a fait un travail considérable de recherche. Bien entendu, on a découvert d'autres choses depuis. Mais pour l'essentiel, fondamentalement, cette œuvre de Gibbon reste tout à fait valable. Vous avez une œuvre de François-Marie Arouet. Je pense que vous savez tous qui est François-Marie Arouet. C'est Voltaire. Alors, le vrai nom de Voltaire, il était dit Voltaire. En réalité, son nom, c'était Jean-Marie Arouet, A-R-O-U-E-T. Né en 1694 et mort en 1778. Et il a écrit en 1751 le siècle de Louis XIV. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu cet ouvrage de Voltaire. C'est un ouvrage très intéressant. D'autant plus intéressant que, à certains égards, en tant qu'homme de la Haute-Cléron, Voltaire est a priori plus ou moins contre Louis XIV, et puis il se rend compte malgré tout du rayonnement qu'il y a eu autour de celui qu'on a appelé le roi soleil, et finalement il donne, non pas tellement de Louis XIV seulement, mais de ce qu'il appelle le siècle de Louis XIV, une image qui demeure finalement inscrite dans les mémoires de ceux qui ont lu ce livre, et d'ailleurs qui a eu une très grande influence. Et puis alors, en italien, Gian Battista Vico, qui est né en 1668 et qui est mort en 1744 et qui est l'auteur, là ce qui est intéressant, c'est pas tellement l'étude d'un événement ou d'un moment de l'histoire, comme la décadence et la chute de l'Empire romain de Gibbon, comme le siècle Louis XIV de Voltaire, mais un livre qui est un livre, j'allais dire, de philosophie de l'histoire, en quelque sorte, qui s'appelle « Principes d'une science nouvelle » relative à la nature commune des nations. C'est un titre un peu long, je le redis. Principe d'une science nouvelle relative à la nature commune des nations. La première édition a été en 1725, il y a eu une édition revue, complétée en 1744. Nous aurons l'occasion de revenir sur la division tripartite de l'histoire. Je vous indique en passant la division tripartite que donne Vico. Il y a l'âge divin. Suivi de l'âge héroïque. Pour aboutir à l'âge humain. Voilà la division tripartite de l'histoire que donne Vico. Et c'est en cela que Vico, bien comme du XVIIIe siècle, est un peu le précurseur des historiographes du XIXe siècle. Il y a un homme maintenant dont je veux dire quelques mots, parce qu'il a eu une certaine importance pour l'histoire. Nous aurons l'occasion de reparler de lui quand il sera question, au mois de mars, de la sociologie. Et cet homme, c'est le fondateur du positivisme, il s'agit d'Auguste Comte. En 1842, alors d'abord les dates d'Auguste Comte, 1798-1857. En 1842, Comte achevait la publication de son cours de philosophie positive. C'est le titre, cours de philosophie positive. Et c'est la même année, 1842, que Feuerbach publiait l'essence du christianisme. Mais je ne m'y risquerai pas, enfin ça peut être une indication peut-être pour le mémoire ou le travail de doctorat que délivrait l'un d'entre vous, ce serait intéressant de faire un rapprochement entre Auguste Comte, que l'on peut considérer comme se situant plus ou moins dans la droite hegélienne, et Feuerbach, que l'on peut inscrire dans la gauche hegélienne, Feuerbach étant, vous le savez, un des pères spirituels de Karl Marx. Disons quand même quelques mots de Feuerbach. Il nous intéresse puisqu'il a écrit ce livre sur l'essence du christianisme. La traduction française en a paru, c'est une traduction d'un certain Joseph Roy, en a paru en 1864. Et ça a été réédité depuis. Mais je crois qu'on a toujours réédité la traduction de Joseph Roy, qui a été estimée par les éditeurs une traduction fidèle. Donc vous pouvez lire l'essence du christianisme en français. En passant, je vous signale que ce Feuerbach était un grand ami de Frédéric David Strauss. Vous avez certainement entendu parler de Strauss dans vos cours de Nouveau Testament. Friedrich David Strauss est l'auteur, en effet, d'une célèbre vie de Jésus, publié en 1835. Alors, laissons de côté Strauss en indiquant seulement que pour lui, les évangiles n'étaient que des mythes dans lesquels s'exprimaient les aspirations du peuple juif. Si vous voulez, ce qui a guidé Strauss, c'était un a priori d'ailleurs, je veux dire, il avait ça dans la tête avant même d'étudier la question. Pour lui, les évangiles, c'était des mythes qui exprimait les aspirations du peuple juif. Et on peut dire que Feuerbach, lui, a repris ça d'une autre façon, en disant que Dieu n'est qu'un mythe dans lequel s'expriment les aspirations de la conscience juive. Donc, si vous voulez, on peut faire un parallèle entre ces deux amis qui étaient Feuerbach et Strauss. Mais, je vous le répète, ce qui serait intéressant, c'est de voir, de rapprocher Comte et Feuerbach. Alors, quelques mots, quand même, sur Feuerbach. Feuerbach a une vision qui sera reprise tout à fait par Marx. Bon, je vous disais tout à l'heure qu'on peut considérer Karl Marx comme le grand disciple de Feuerbach. D'ailleurs, dans la Sainte Famille, que Karl Marx publia en 1845, c'est un livre d'ailleurs, vous l'avez eu, comme pour le manifeste du Parti communiste de 1848, la collaboration de Engels, E-N-G-E-L-S, eh bien dans la Sainte Famille, Marx loue Feuerbach d'avoir dissipé ce qu'il appelle les anciennes vétilles, les choses de rien, pour installer l'homme à leur place. Alors, quelques mots donc sur Feuerbach. Pour Feuerbach, l'homme est aliéné parce qu'il se trouve dépossédé de quelque chose qui lui appartient par essence au profit d'une réalité illusoire. Je vous donne quelques citations de Feuerbach lui-même. La religion se change ainsi en un vampire de l'humanité qui se nourrit de sa substance, de sa chair, de son sang. Autre citation de Feuerbach. Sagesse, vouloir, justice, amour, autant d'attributs infinis qui constitue l'être propre de l'homme et qui l'affecte néanmoins comme si c'était un autre être. L'homme objective ses attributs qui sont les siens, sagesse, vouloir, justice, amour, en un sujet fantastique qui est Dieu. Dieu, au fond, dit Feuerbach, n'est que l'ensemble des attributs qui font la grandeur de l'homme. L'homme objective ses propres attributs dans cette réalité fantastique et illusoire qu'est Dieu. Il y a une phrase, c'est ma dernière citation de Feuerbach, « Dieu fut ma première pensée, la raison ma seconde et l'homme ma troisième et dernière. » Je répète parce que je crois que c'est une phrase très caractéristique de Feuerbach et qui trouve son écho dans l'œuvre de Marx. « Dieu fut ma première pensée, la raison ma seconde et l'homme ma troisième et dernière. » Alors il y a pour Feuerbach un certain but de l'histoire. Ce but de l'histoire, c'est le moment où l'homme prendra conscience que le seul Dieu de l'homme est l'homme lui-même. Et Feuerbach de frapper cette devise, vous savez qu'il y avait un dicton latin, homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, et Feuerbach donne comme devise à l'humanité future, homo homini deus, l'homme un dieu pour l'homme. Donc, c'est à noter, avec Feuerbach apparaît une certaine vision de l'histoire. Nous avions vu que pour Vico, il y avait l'âge divin, suivi de l'âge héroïque, suivi de l'âge humain. Eh bien, pour Feuerbach, il y a d'abord le temps où sa raison d'être est Dieu, ensuite sa raison d'être est la raison, et enfin sa raison d'être est l'homme. Il n'y a pas de correspondance absolue entre ces trois âges. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a un ternaire, vous avez le ternaire de Vico, divin, héroïque, humain, et vous avez le ternaire de Feuerbach, Dieu, la raison, l'homme. Alors nous allons trouver déjà un rapprochement, une amorce de rapprochement entre Feuerbach et Comte. Dans un numéro de la Revue des Deux Mondes, vous savez que la Revue des Deux Mondes, qui existe encore aujourd'hui et qui est la plus ancienne revue française encore existante, la Revue des Deux Mondes, dans le numéro du 1er mai de 1850, un noble inconnu du nom de Émile Cessé, ne notez pas son nom, enfin si ça vous amuse, écrivez-le, Émile Cessé, S-A-I-2-S-E-T, dit la chose suivante, « Monsieur Feuerbach à Berlin, comme Monsieur Auguste Comte à Paris, c'est d'ailleurs rigolo, c'est le monsieur, Monsieur Feuerbach à Berlin, comme Monsieur Auguste Comte à Paris, propose à l'Europe chrétienne l'adoration d'un Dieu nouveau, de point le genre humain. » Remarquez, c'est rédigé dans un style un peu spécial, mais finalement, ce noble inconnu, ce brave Émile Cessé, dit quelque chose qui n'est pas si faux. C'est vrai que nous avons soudain, au milieu du XIXe siècle, l'apparition de deux conceptions, l'une hégélienne de gauche avec Feuerbach, l'autre hégélienne de droite avec Auguste Comte, qui propose comme divinité nouvelle, à la place de Dieu, de point le genre humain. En avril 1822, si je ne m'abuse, comme Comte est né en 1798, en 1822, il avait 24 ans, donc à 24 ans, en 1822, Comte, pour la première fois, a proposé sa fameuse loi des trois états. D'ailleurs, c'est proposé dans un tout petit livret intitulé « Prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société ». Prospectus des travaux nécessaires pour réorganiser la société. Prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société. Alors, au fond, avec le marxisme, avec Feuerbach, mais surtout avec Marx, on a aussi une proposition pour réorganiser la société. Mais, je le répète, Auguste Comte a une proposition qu'on peut qualifier plus ou moins de droite, hégélienne de droite, tandis que Feuerbach, suivi par Marx, propose une organisation de la société. Mais dans les deux cas, il y a divinisation du genre humain, il y a l'homme, ou plus exactement l'homme avec un H majuscule, parce qu'il ne s'agit pas de l'homme individuel, mais de l'homme collectif, du genre humain, le genre humain, l'homme, en tant que le genre humain, en place de Dieu. Alors, en 1822, il y a la loi des trois états. Je pense que vous connaissez déjà la loi des trois états d'Auguste Comte, parce que tout Français qui a préparé son bachot et qui a suivi quelques cours de philosophie a entendu parler de ces trois états. Il y a d'abord l'état théologique. L'état théologique ou fictif. Ensuite, l'état métaphysique. Et enfin, l'état positif. Alors, il disait d'ailleurs, on peut mettre l'état positif ou scientifique. Et l'état métaphysique, on peut l'ajouter si on veut, abstrait. En fait, sur l'état métaphysique ou abstrait, Auguste Comte ne dit pas grand-chose. Mais il développe surtout l'état théologique et aussi, bien sûr, puisque c'est la proposition qu'il fait, l'état positif ou scientifique. D'ailleurs, pour Auguste Comte, au fond, il est le découvreur de la loi des trois états et c'est grâce à sa philosophie positive que l'humanité, rien de moins, va prendre le bon tournant et passer, une fois pour toutes, définitivement, de ce qui peut rester d'état théologique et surtout de ce qu'il y a encore d'état métaphysique, dans l'état scientifique, dans l'état positif. Et le cours de philosophie positive, je vous rappelle, Comte avait publié en 1842, au fond, est comme le correspondant du Capital de Karl Marx. L'homme, je cite Auguste Comte, hein, je le cite exactement, l'homme a commencé par concevoir les phénomènes de tout genre comme dus à l'influence directe et continue d'agents surnaturels. Donc l'homme a commencé par concevoir les phénomènes de tout genre comme dus à l'influence directe et continue d'agents surnaturels. Ça, c'est pour l'état théologique. Ensuite, il les a considérés comme produits par diverses forces abstraites, inhérentes au corps, mais distinctes et hétérogènes. Ça, c'est l'état métaphysique. Enfin, il s'est borné à les envisager comme assujettis à un certain nombre de lois naturelles invariables qui ne sont autre chose que l'expression générale des relations observées dans leur développement. Ça, c'est l'état scientifique ou positif. À l'intérieur de la première étape, ou du premier état, Auguste Comte fait une distinction entre fétichisme, polythéisme et théisme. Autrement dit, dans le premier état, il y a succession, fétichisme, polythéisme et théisme. Bulbard. Et Feuerbach et Marx, d'autre part, on a l'idée d'un sens de l'histoire. Et ce qui est étrange, ce qui est curieux, je pense que vous le savez, c'est qu'il y avait eu au Moyen-Âge un certain Joachim de Flore. Vous avez un cours sur le Moyen-Âge ? Hein ? Oui, mais il y en a un dans le site. Bon. Alors, vous savez que Joachim de Flore, que fait Joachim de Flore, celle que fait Vico, celle que fait Feuerbach, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, eh bien, on arrive au moment tournant final. Pour Joachim de Flore, l'âge du père correspond en gros à avant la venue du Christ. L'âge du fils, eh bien, c'est l'ère christique jusqu'au Moyen-Âge. Et puis maintenant, après une espèce de long millénaire, un long millénium médiéval, on arrive à l'âge du Saint-Esprit. Ça va être l'âge de la liberté, ça va être l'âge de... On peut dire l'âge du Père, c'est l'âge de la loi, l'âge du Fils, c'est l'âge de la grâce, et l'âge du Saint-Esprit, c'est l'âge de la liberté. Enfin, attention, hein, Joachim de Flore ne l'a pas dit aussi carrément que je le dis. Enfin, c'est sous-jacent à sa proposition. Alors, donc, avec Joachim de Flore, off, on va passer à l'âge du Saint-Esprit. Pour Vico, il pense, il écrit au XVIIIe siècle, eh bien, avec le XVIIIe siècle, on va passer à l'âge humain. Tandis que pour Feuerbach et Auguste Comte, pour arriver à l'avènement de l'homme, ou pour arriver à l'avènement de la science, il faut attendre le XIXe siècle. Enfin, L'idée, c'est que chaque fois, dans la proposition qui est faite, on arrive au tournant qui fait passer de l'avant-dernier âge au dernier âge. Il y a une sorte d'eschatologie de Joachim de Flore, une eschatologie de Vico, une eschatologie de Marx ou de Comte. Bon. Si j'ai fait cette sorte de parenthèse sur Comte, c'est parce que je crois qu'il est intéressant de voir la filiation de tout ça. Il y a un autre bonhomme qu'on pourrait inscrire à la suite. Enfin, lui, il n'est pas un penseur, spécialement, encore qu'il ait écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf, c'est-à-dire Mon combat, c'est Adolf Hitler. Parce que Adolf Hitler a eu l'idée du troisième et dernier empire, le fameux troisième Reich, ce qui suppose qu'il y avait eu deux Reichs antérieurs et qu'on arrivait au troisième Reich, qui était d'ailleurs un millénium. Vous savez que Hitler pensait qu'il établissait, il l'a établi pour 12 ans, mais il a pensé qu'il établissait un troisième Reich pour 1000 ans. Hein ? Pour 1000 ans. Alors, au fond, il y a une espèce d'eschatologie dans tout ça. D'ailleurs, il faut se souvenir que Hitler, il ne faut pas oublier, Hitler se trouve... Vous savez, on classe souvent le nazisme à l'extrême droite. C'est une façon de considérer les choses. Mais on peut considérer aussi que c'est à l'extrême gauche dans la mesure où il ne faut pas oublier que le nazisme, c'est le national-socialisme. Et que Hitler est en partie l'héritier des vues socialistes du XIXe siècle, dans la mesure où c'est l'État qui doit contrôler la culture, qui doit contrôler l'économie, qui doit contrôler tout. Tout doit être soumis à l'État. Alors, dans le marxisme, c'est la même chose. Il va y avoir un temps où c'est l'État, sous la forme de la dictature du prolétariat, qui va tout gouverner. Alors, on dit bien qu'ensuite, après, il n'y aura plus d'État. Mais enfin, comme vous le savez, tous les régimes socialistes, j'allais dire qu'ils soient prétendument de gauche ou prétendument de droite, tous les États socialistes, qui sont d'ailleurs les États communistes actuellement, les socialistes je pense à la Jacobine, tous les États sont des États où la dictature de l'État règne. Alors, soi-disant, c'est le parti qui gouverne, ou c'est... Alors, on dit que c'est le prolétariat. Et le prolétariat se réduit au parti. Et le parti se réduit à quelques hommes. Et même les quelques hommes, c'est finalement un homme, bien souvent. C'était Staline, ça a été Lénine, puis Staline, puis Khrouchtchev, et puis maintenant c'est Gorbatchev. Enfin, finalement, vous avez une dictature de l'État sous toutes les formes de la société. Et même, pas seulement les formes de la société, mais même sur les formes de la pensée scientifique. Vous savez, par exemple, toute la lutte qui a eu au point de vue biologique en Russie soviétique, avec toute la fameuse histoire de Lysenko, et je n'entre pas là-dedans parce que bon. Mais finalement, si vous voulez, il y a une certaine. Oui, il y a un certain lien entre tout ça, le lien étant que l'histoire a un sens, puisque elle doit aboutir, elle doit avoir pour but une société où tout baigne dans l'air, où tout va magnifiquement. C'est l'âge du Saint-Esprit de Joachim de Flore, c'est l'âge humain de Vico, c'est l'âge positif, scientifique, ou l'âge du Troisième Reich, comme on voudra, mais on va aboutir à une vie terrestre merveilleuse, une vie terrestre qu'on n'a jamais connue dans les étapes antérieures. Donc il y a une certaine eschatologie dans tout ça, et c'est pour ça que je vous disais que, à la différence, par exemple, de Gibbone ou de Voltaire, Vico a préparé au XVIIIe siècle ce qu'on a vu ensuite au XIXe ou XXe siècle, c'est-à-dire l'histoire a pour but, et alors au fond on a une visée, il y a une origine, c'est une origine chrétienne. Vous savez que Chesterton, l'auteur anglican, disait que les idées modernes sont souvent des idées chrétiennes devenues folles. En réalité, il y a aussi une sorte de sécularisation des affaires. Mais de même que l'Écriture sainte nous donne un sens et un but de l'histoire, et ce but étant l'avènement du royaume de Dieu, eh bien, si vous voulez, vous avez une sorte de décalque de cela. On a dit, je me souviens plus, qui a dit que le diable était le singe de Dieu. Eh bien, je dirais, au fond, la pensée séculariste singe la pensée biblique. Et si vous voulez, il y a une vision sécularisée du royaume de Dieu, avec cette différence que le royaume de Dieu conjugue l'autorité souveraine de Dieu et la pleine liberté et responsabilité de l'homme, tandis que la vision séculariste de l'avenir historique est une vision de dictature, une vision de despotisme, une vision où un État monolithique finit par écraser l'homme et je dirais tous les corps intermédiaires, comme on dit, que Dieu a institué pour l'homme, le mariage, la famille, etc. Bon, alors, maintenant que j'ai fini mon premier propos, je voudrais aborder en face de tout ce que je viens de dire au sujet de l'histoire non chrétienne ou de l'histoire envisagée par des non chrétiens, je voudrais les parler de la vision biblique de l'histoire. Alors, je le ferai en formulant quelques principes bibliques. Tout d'abord, première chose, la foi chrétienne affirme que l'univers, le temps, l'histoire, l'homme, toutes choses, sont l'ouvrage du Dieu trinitaire, créateur et tout-puissant. Deuxième chose, en relation avec la première, c'est que le sens de l'histoire ne peut être vraiment saisi que selon la révélation parole de Dieu. Quand je dis le sens de l'histoire ne peut être saisi, il faut bien voir que ce ne peut être qu'incoativement, c'est-à-dire en une petite mesure, et non pas exhaustivement, c'est-à-dire d'une manière totale. Quand je dis que les chrétiens saisissent le sens de l'histoire qui est révélé dans l'Écriture sainte, ça ne veut pas dire que les chrétiens vont vraiment connaître exhaustivement, totalement, ce sens de l'histoire. Ils ne vont pouvoir le saisir qu'incoativement, c'est-à-dire qu'en commencement. Mais, même si c'est d'une manière incoative, c'est quand même d'une manière vraie que les chrétiens reçoivent de l'Écriture sainte révélation du sens de l'histoire. Dieu a créé le monde, Dieu règne souverainement sur le monde, et Dieu conduit sa création vers le but que lui-même a fixé pour elle. Donc, nous avons dans la parole de Dieu révélation de ce sens et de ce but de l'histoire. 3. L'histoire ne progresse pas selon un dynamisme qui lui serait inhérent, mais selon une marche, un progrès que Dieu conduit souverainement. Autrement dit, il ne s'agit pas dans l'histoire d'une évolution inhérente, mais il s'agit d'un progrès dû à la conduite rectrice et souveraine de Dieu. 4. L'homme est un être, une créature, en révolte contre Dieu et contre la loi de Dieu. Le problème du genre humain, le problème de tout homme, c'est finalement le problème du péché, le problème de la révolte contre Dieu. Et là nous retrouvons l'idée directrice qui se trouve dans la Bible, mais qui a été parfaitement exposée par saint Augustin au 5e siècle dans son ouvrage La cité de Dieu. Il y a tout au long de l'histoire un conflit permanent de ce que saint Augustin a appelé les deux cités. La cité de Dieu, la Civitas Dei, et la cité terrestre, la Civitas Terrena. Et au fond, le mystère de l'histoire, c'est le mystère de la position du péché et du conflit des deux cités dans le dessein de Dieu. Il ne s'agit pas en effet d'un manichéisme, Dieu demeure souverain, Satan lui-même, c'est ce que nous indique en particulier le livre de Job, ne peut pas bouger le petit doigt sans la permission de Dieu. Bon, mais le mystère de l'histoire tient à ce fait que le Dieu souverain, qui fait que rien n'arrive ici-bas sans son décret souverain, le Dieu souverain intègre dans son dessein cette révolte ce péché de l'homme. Mais l'histoire est faite du combat entre le Christ et l'adversaire, entre la cité de Dieu et la cité terrestre. Et au centre de l'histoire, il y a l'incarnation de Dieu, la venue de Dieu pour le salut du genre humain. Si bien que c'est la venue du Christ qui est le moment décisif dans l'histoire de la victoire de Dieu sur les forces du péché, du diable et de la mort. Il y a ce qui est décisif, il y a ce qui est progressif, et il y a ce qui est finitif. Alors, ce qui est décisif dans toute l'histoire, c'est le Christ. C'est le Christ.